Laudetur Jesus Christus.
Présentation aujourd'hui du plan de paix américain pour le Proche-Orient. Les Palestiniens appellent à la mobilisation générale face à un texte qui met en péril le combat des Palestiniens pour l'indépendance. Des manifestations ont déjà commencé aujourd'hui dans la bande de Gaza. On fait le point juste après les titres. Au Burkina Faso, une nouvelle attaque a fait des dizaines de morts dans un village au nord du pays. Le cardinal Ouédraogo exhorte à la fin des violences et lance un véritable cri du cœur. Vous l'entendrez dans quelques instants. Au sommaire également, l'épidémie de coronavirus qui se propage. 106 personnes sont mortes en Chine et 4500 personnes ont été infectées. De nombreux pays, dont la France, évacuent leurs ressortissants. Et puis nous nous rendrons en Turquie alors que le Conseil des droits de l'homme examine aujourd'hui la situation des droits de l'homme dans le pays.
Radio Vatican, le journal, Hélène Détombe.
Bonjour, Donald Trump présentera dans quelques heures, à 17h GMT, le plan de paix américain pour le Proche-Orient. Un plan en gestation depuis 3 ans, préparé par son gendre et conseiller Jared Kushner. À cette occasion, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a fait le déplacement à Washington. Israël a déjà salué un plan historique. Les Palestiniens, en revanche, l'ont catégoriquement rejeté. Ce matin, le mouvement islamiste Hamas a confirmé sa participation à une rencontre d'urgence convoqué par le Fatah du président palestinien Mahmoud Abbas et un appel à la mobilisation a été lancé. Les explications de Valérie Ferron.
Pour les Palestiniens, pas besoin d'attendre la publication de ce plan pour savoir que son objectif est de les faire disparaître en tant que peuple de la scène géopolitique, sous couvert d'un mot « paix » vidé de son sens, pour établir un État de Palestine fantoche. Face à un projet qui menace leur existence même et leur droit à l'autodétermination sur leur terre ancestrale, la direction palestinienne ainsi que toutes les factions, du Fatah du président Abbas au Hamas dans la bande de Gaza, ont appelé à la résistance par tous les moyens, par des manifestations populaires ainsi que des actions au niveau politique, diplomatique et judiciaire à l'international. Le président Abbas a déclaré que les jours à venir allaient être difficiles, se disant convaincu que les États-Unis et Israël allaient faire payer très cher aux Palestiniens le refus d'accepter les diktats concoctés par le président Trump et le premier ministre israélien sortant, Benjamin Netanyahou. Une réunion de l'OLP est prévue ce soir, juste après la publication du plan pour définir la stratégie à adopter. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
Et juste avant la présentation de ce plan de paix américain, l'armée israélienne a indiqué renforcer sa présence dans la vallée du Jourdain. Le Burkina Faso, de nouveau endeuillé, une attaque djihadiste de grande ampleur a fait des dizaines de morts dans la province du Soum, au nord du pays. Des hommes armés ont envahi samedi dernier le village de Silgadji. Depuis 2015, les offensives djihadistes ont fait plus de 750 morts et 560 000 déplacés au pays des hommes intègres. Depuis Lourdes, où il participait la semaine dernière aux 24e journée Saint-François de Sales, le cardinal Ouédraogo a dénoncé une barbarie indescriptible. L'archevêque de Ouagadougou lance un véritable cri du cœur. On l'écoute.
La situation que nous vivons actuellement au Burkina Faso est très préoccupante. Des frères qui tuent leurs frères et leurs sœurs. Alors ce que nous pouvons dire, c'est un cri de cœur. Que tous ceux qui tuent leurs frères, qu'ils déposent les armes. Nous souhaitons que le peuple ait un sursaut aussi de solidarité, d'unité pour faire face à cet hydre de violence qui soutient tout ce mouvement d'assassins. Nous n'avons pas d'usine d'armes. Qui les arme? Qui les finance? Qui les organise? Il y a certainement des ramifications ad intra à l'intérieur comme ad extra à l'extérieur, même si nous n'arrivons pas à les identifier. L'Église essaie d'être très solidaire avec notre peuple. Et ce que nous pouvons faire, on le fera pour la protection de la vie. En outre, le dialogue interreligieux reste un pivot essentiel de notre pastoral. Et notre force pour nous chrétiens, c'est la prière et aussi des efforts de solidarité que nous pouvons essayer de manifester. La paix est un don de Dieu. La paix est le fruit des efforts des hommes.
Le cardinal Philippe Ouédraogo, archevêque de Ouagadougou, nouveau président du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, un témoignage à retrouver à l'adresse vaticannews.va. Paris exhorte Washington à maintenir son soutien militaire dans le Sahel. Il est d'une importance cruciale et sa réduction limiterait gravement l'efficacité de nos opérations contre les terroristes, a déclaré hier la ministre française des Armées, Florence Parly, à l'issue de sa rencontre au Pentagone avec le ministre américain de la Défense. Cette flambée de violence dans plusieurs pays du Sahel a des conséquences dramatiques sur les enfants. 5 millions d'entre eux ont besoin d'aide humanitaire au Burkina Faso, au Mali et au Niger, selon l'UNICEF. Des centaines de milliers d'enfants ont vécu des expériences traumatisantes, s'alarme l'agence onusienne dans un document publié ce mardi, faisant état de 277 enfants tués ou mutilés au cours des 9 premiers mois de 2019. Des affrontements à Briey en Centrafrique le week-end dernier ont fait une cinquantaine de morts. L'annonce a été faite par le préfet du département. Il évoque des violences intercommunautaires. Divers groupes armés et milices d'autodéfense se disputent le contrôle de Briey dans l'est du pays, une ville riche en diamants. En Chine, l'épidémie de coronavirus poursuit sa progression avec des répercussions aux dimensions internationales. Le bilan de l'épidémie s'élève désormais à 106 morts en Chine et 4500 cas infectés. En Allemagne, un premier cas de contamination a été confirmé hier. Le Canada vient d'en déclarer 2. Plusieurs pays organisent l'évacuation de leurs ressortissants, une décision qui n'emporterait pas l'adhésion de l'OMS. Les précisions d'Adélaïde Patrignani.
De l'autre côté des frontières chinoises, la propagation du virus fait réagir. L'Allemagne et la Thaïlande réfléchissent à l'évacuation de leurs ressortissants présents à Wuhan, foyer de l'épidémie. Et pour de nombreux pays dont les États-Unis, la France, le Japon et le Maroc, la décision est déjà prise. Une évacuation aérienne aura lieu. Côté français, cela devrait représenter 1 millier de personnes, dont des salariés des usines Renault et PSA et de nombreux étudiants. Les personnes rapatriées seront soumises à une période de quarantaine. Les Japonais, quant à eux, sont pour la plupart des salariés des 200 firmes nippones implantées dans ce foyer industriel du centre du pays. Leur évacuation a déjà commencé. Mais l'OMS ne recommande pas cette façon de faire, selon son directeur général en visite à Pékin aujourd'hui. Dans la situation actuelle, il faut garder son calme, réagir avec excès n'est pas nécessaire, a-t-il aussi déclaré. Des propos rapportés par un communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères et qui attendent encore des clarifications selon le siège genevois de l'organisation onusienne. Hier, l'OMS avait corriger son évaluation, estimant que le risque lié au virus était très élevé en Chine, élevé au niveau régional et modéré au niveau international.
Adélaïde Patrignani, Hong Kong a annoncé ce mardi de nouvelles mesures pour contenir l'épidémie. Les autorités ont annoncé réduire de moitié le nombre de vols en provenance de la Chine continentale et toutes les liaisons transfrontalières en ferry seront suspendues. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU examine aujourd'hui à Genève le cas de la Turquie dans le cadre de son examen périodique universel. À en croire le discours des autorités d'Ankara, les droits de l'homme ne se seraient jamais aussi bien portés et la Turquie pourrait même servir de modèle à l'Occident. Mais la réalité, celle que subissent au quotidien les défenseurs des droits de l'homme et les simples citoyens, est tout autre. La répression des voix dissidentes n'a cessé de s'intensifier depuis le coup d'État manqué de l'été 2016 à Istanbul, Anand Lower.
La dernière fois que le Conseil des droits de l'homme de l'ONU s'était intéressé de près à ce qui se passe en Turquie, c'était en 2015. À l'époque, la situation n'était pas brillante, mais sans commune mesure avec la dégradation des dernières années. C'est ce que constate Stürk Türkdoğan, coprésident de l'Association des droits de l'homme à Ankara.
Nous sommes dans une Turquie totalement différente. Depuis un changement constitutionnel en 2017, nous subissons le régime autoritaire d'un seul homme. Conséquence la plus directe pour les droits de l'homme, la mise sous tutelle de la justice qui a remis en question le droit à un procès équitable.
Ces 5 dernières années ont aussi vu le retour de la guerre avec les combattants kurdes du PKK après l'échec de pourparlers de paix, l'extension des combats en Syrie voisine et bien sûr, à l'été 2016, une tentative de coup d'État. Celle-ci a entraîné la garde à vue de plus de 500 000 personnes, l'emprisonnement de plus de 30 000 d'entre elles et le limogeage de quelques 130 000 fonctionnaires. Stürk Türkdoğan.
La tentative de coup d'État a été mise en échec, puis le pouvoir a mené un contre-coup d'État. D'abord grâce à l'état d'urgence qui a duré 2 ans, puis par une sorte d'institutionnalisation de l'état d'urgence. Aujourd'hui, le droit de manifester est régulièrement entravé, comme l'est la liberté d'expression.
Pendant cette période, les relations avec l'Union européenne se sont nettement détériorées. L'adhésion n'est plus qu'un mirage, alors qu'il y a 15 ans encore, les militants des droits de l'homme turcs attendaient beaucoup de ce processus. À Istanbul, Anand Loire pour Radio Vatican.
C'est C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de votre écoute. On se retrouve à 18h. Je vous souhaite une belle après-midi. À plus tard. Au revoir.